Juliette Armanet tient le premier rôle du film Partir un jour, l'histoire d'une... Juliette Armanet tient le premier rôle du film Partir un jour, l'histoire d'une jeune femme qui a quitté parents, amis, amour, et qui revient là où elle a grandi. Question. Dans sa vie, Juliette Armanet a-t-elle eu hâte de se faire la malle, de quitter ses parents et son frère ?
Non, j'étais bien, moi, dans ma famille. J'étais contente, j'étais hyper heureuse, j'ai eu vachement de chance. Et j'ai pas eu hâte, et puis j'ai coupé d'un seul coup, je suis partie à 18 ans.
Donc il n'y avait pas de hâte, mais c'était un peu radical, quoi.
Bah, ouais, mieux vaut ça, je crois. Que de partir avec des Tupperware, avec un petit truc dedans, un petit goûter, un petit machin. Au moins là, claque.
C'est l'histoire d'une fille galvanisée par l'inquiétude, même que ça lui donne toutes les audaces. C'est la première fois que Juliette Armanet a un premier rôle. Et c'est la première fois qu'un premier film fait l'ouverture du Festival de Cannes. Une trouille et une excitation au carré, donc. Juliette Armanet et Cécile dans Partir un jour d'Amélie Bonin. Un film où les personnages dialoguent parfois en chanson. Parce qu'un tube peut tout dire, on le sait. Exemple, la chanson qui raconte le personnage de Juliette Armanet, c'est un tube de Michel Delpech qui dit « Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière ». C'est l'histoire d'une fille montée à la capitale qui revient dans sa famille, là où elle a grandi, là où elle a vécu son premier amour. À quelques jours de la présentation de « Partir un jour » et de sa sortie en salle mercredi prochain, j'ai retrouvé Juliette Armanet chez elle. Elle est passée en cuisine, a préparé des framboises, deux riz corés, et je l'ai suivi.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
On va monter.
Ok.
Alors attention. Il y a des rouleurs, des patins à glace, des chats. Pousse-toi, pousse-toi. C'est là, j'avais envie de. La chambre noire, voilà, qui n'est pas du tout finie.
Ah, mais il y a là où il y a plein de claviers. C'est la salle de musique, en fait, ça.
C'est la salle de musique, ouais. Ça te va ?
Impec.
Ok, super. Alors, installe-toi.
Sortir le Polaroid pour la fin de l'interview. Mon portable pour faire écouter des sons. Et surtout, retrouver la première phrase préparée pour lancer la conversation. Avant les albums, les tournées, Juliette Armanet a rêvé de théâtre. Et...
En fait, parfois, on rate des choses et c'est tant mieux. Enfin... Je crois que...
Vous avez raté un truc, du coup ?
Bah ouais, j'ai raté le conservatoire national que j'ai passé 3 fois. J'ai raté toutes les écoles que j'ai essayé de théâtre. En fait, moi, j'étais vraiment dans mon délire. Je voulais monter une troupe à la Mouchkine. Je voulais chercher un lieu pour créer une compagnie. J'étais habitée par ça. Et puis, à un moment donné, j'ai eu aucune école. J'ai vraiment tout essayé. Je l'ai passé à des examens en jouant Bérénice avec une copine qui jouait Titus. Enfin, c'est devenu parmi les plus grands fous rires de nos vies. Mais... Et puis, bon, je me suis dit, OK, bah, je vais m'y prendre autrement. Je vais passer un peu des castings. Et puis, en fait, j'ai passé des journées à attendre qu'il se passe quelque chose. J'ai eu un petit rôle que j'ai joué. J'avais une phrase, c'était « Vos papiers, s'il vous plaît. Votre passeport, s'il vous plaît. » 75 dates à dire « Votre passeport, s'il vous plaît. » Bon... c'était chouette, j'avais une belle troupe, mais à un moment donné, je me suis dit, OK, entre le rêve et la réalité, il y a un cap, en fait. Et puis, je trouvais ça éprouvant d'être toujours dépendant du désir des autres. Donc, en fait, un été, je devais jouer dans une pièce qui s'est annulée. Et je voulais absolument bosser parce que je voulais absolument être indépendante financièrement. Et du coup, j'ai cherché un stage et je me suis retrouvée faire un stage chez Arte. En me disant, bon, bah, OK, je vais faire autre chose, je vais essayer autre chose. Et en fait, bah, je suis pas repartie pendant 8 ans. Je suis restée dans les locaux de cette société de production. Il y a une nana qui est rentrée, c'était vraiment au milieu du mois d'août, il se passait pas grand chose. Et elle est rentrée dans la rédaction, s'appelait Yvonne, elle s'appelle toujours Yvonne. Et elle a changé ma vie. Elle est rentrée en disant « Est-ce que quelqu'un a son permis de conduire ? J'ai un documentaire à faire sur le camembert en Normandie. » Et je dis « Bah moi, j'ai mon permis. » Et on est parties toutes les deux et on s'est jamais quittées. Elle m'a appris le métier de documentariste, de réalisatrice. Elle m'a pris sous son aile. J'étais d'abord son assistante, puis sa choréale. Et puis après, j'ai fait mes films moi-même. Et du coup, j'ai pas vécu de frustration du théâtre. En fait, la vie que j'avais ensuite me plaisait énormément. J'ai voyagé partout, j'ai rencontré plein de gens. C'était une autre forme de rapport au théâtre. Enfin, je continuais à y aller tout le temps, mais j'avais pas vraiment de frustration vis-à-vis de ça.
La voix que vous avez choisie est issue d'un des documentaires que vous avez réalisé.
Oui.
C'est un documentaire que vous avez consacré à votre grand-mère,
oui,
qui s'appelait Paulette,
oui,
et vous avez voulu écouter sa voix.
Oui. Nous jouons aujourd'hui « Un jour, mon prince viendra ». Paulette me donne un cours magistral.
Et tu l'aimes pas, c'est le son si. Que tu t'aimes pas.
Ah ben non. Mais non, c'est pas. C'est celui-là que tu joues.
Ses mains tremblent, mais son oreille, elle, est miraculeusement intacte.
Voilà. Hein? Tu me l'as pas joué, celui-là. Bien, tout ça, ça s'est passé. C'est merveilleux ce que t'as fait. Tu le reprends, celui-là. Hop, à toi. Mais enfin, ce que t'as joué là tout de suite, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Bravo, ma fille. Bravo, ma petite. C'est très bien.
Waouh. C'est fou de réécouter ça. La puissance des voix.
C'est plus fort que de regarder une photo, d'ailleurs.
Ouais. Ah bah oui, oui. Je suis contente d'avoir fait ce film, en tout cas. C'était un ami à moi qui avait bien voulu m'accompagner pendant tout un été pour filmer ma grand-mère dans l'intimité, donc c'était chouette. Mais c'était un très beau moment de... parce qu'elle savait qu'elle était filmée. Et ça lui a donné une certaine force, une certaine, comment dirais-je, un certain bagou. Elle nous faisait rire. Elle était présente comme jamais, quoi. Mais cette scène-là de piano, elle est fondatrice parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est qu'au début de la séquence, elle sait pas qui je suis. En fait, je pense qu'elle sait même pas qui elle est elle-même. Elle sait plus. Donc, elle me parle comme si elle parlait avec quelqu'un de, voilà, de quelqu'un qui serait là dans son salon ou bon. Et puis, au fur et à mesure, ce que je lui joue, elle comprend que c'est ma mère qui m'a appris et qu'elle a appris à ma mère, mais elle ne sait plus qui est ma mère, sa fille. Enfin bon, bref. Mais ce qui se passe, c'est que grâce à ce morceau, grâce à cette petite leçon de musique qu'elle me donne, parce qu'il lui reste ça comme territoire de conscience, c'est la musique. Donc elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas qui je suis, mais par contre, je me trompe de note. Et là, elle me dit « Ah non, ce n'est pas ça. C'est dingue ». Et grâce à ce moment de musique, eh ben, le lien se fait. Et finalement, l'histoire d'amour entre nous, c'est pas forcément une histoire de famille. C'est ce moment où on se dit, ah, elle me dit, c'est très bien ma petite fille. Et ça me bouleverse qu'elle me dise ça, parce que c'est juste par ce morceau qu'elle refait un lien inconscient dans sa tête. C'est puissant, quoi.
C'est pas rien aussi de filmer le corps de quelqu'un qu'on aime et qui vieillit. C'est pas forcément que de la tristesse, d'ailleurs.
Non, pas du tout. Mais c'était pas... tout le monde n'était pas OK pour que je le fasse, hein, dans ma famille. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui perd la mémoire, quelqu'un qui vieillit, parce que j'ai mis les moments les plus tendres, mais il y a des moments plus durs, quand même. Et c'était... tout le monde n'était pas OK pour que ce documentaire ait lieu, mais moi, j'ai vraiment insisté pour que ça se fasse, et je regrette pas.
Vous avez insisté pourquoi ?
J'ai insisté parce que elle était en train de partir, son esprit était en train de partir, et que moi j'avais besoin de réparer quelque chose qui a. J'attendais tellement ce moment d'être un peu plus âgée pour pouvoir vivre quelque chose de plus de jeune femme avec elle, de plus qu'elle se dévoile un peu plus, que moi aussi je la rencontre autrement que comme enfant. Et ça n'a pas pu avoir lieu. Et puis, je sais pas, le piano, ça vient d'elle, vraiment. Enfin, c'est le piano de Paulette, quoi. C'est, il y a toute une partie de mon enfance, de ma vie, qui a été bercée par sa musique à elle. Donc, c'est pas rien.
Le piano, ça a été au centre de votre musique tout de suite ?
Oui, complètement. Bah oui, parce que mes deux parents sont pianistes et que c'était... on s'asseyait au piano comme ça toute la journée. Enfin, je veux dire, tout le monde jouait au piano chez moi du matin au soir. Il y avait une forme de... Je m'endormais en écoutant mon père jouer le soir. Je me réveillais, ma mère qui déchiffrait un truc. Mon frère qui rentrait du collège ou du lycée qui jouait un truc. Enfin, je veux dire, c'était... ça jouait tout le temps, quoi. Donc, c'était très naturel pour moi. J'ai eu le sentiment que c'était comme un langage secret, un peu, entre nous. Que ça nous permettait de nous, chacun de se raconter et d'entendre les émotions, l'intimité des uns et des autres, et de dire, ah tiens, c'est ça qui joue, qu'elle joue, ok, il est où elle est, ouais, elle est comme ça en ce moment.
Donc, sans passer par les mots.
Ouais.
Et il y a eu un changement d'ailleurs sur scène, parce qu'il y a eu des concerts où vous étiez plus derrière le piano. Et puis après, vous vous êtes, je suis tentée de dire, vous êtes levée, quoi. C'est venu naturellement ?
Ouais, c'est venu comme ça. Ça m'a... Les musiciens avec qui j'ai monté le spectacle, c'est des musiciens super expérimentés. Et en fait, il y avait un truc aussi pour tenir la baraque. J'ai eu un moment où j'avais envie de me lever de mon piano et que ça bouge, quoi. Et même d'ailleurs, je regardais les images de tous ces moments-là. Je me disais, ah, j'ai un peu possédé, c'est un peu... C'était qui cette personne? Ça me paraît un peu loin. Je me dis, ok, bon, c'est étrange.
Comme si vous ne vous reconnaissiez pas.
Pas forcément, je me reconnais, ouais. Et puis on se métamorphose. Enfin, moi, cet album, il m'a changé complètement. Je ne suis plus du tout la même personne, je crois. Enfin, la même femme sur scène, ça c'est sûr.
En quoi vous n'êtes pas la même personne depuis ce disque?
J'en ressors toujours un petit peu à la fois. Je ne sais pas, heureuse et abîmée à la fois, c'est étrange à dire.
Inquiète?
Oui. Je sais pas, ce sera toujours comme ça. Mais c'est beau d'être inquiet. Enfin, il y a quelque chose de beau de chercher. On cherche comme si on cherchait quelque chose sans cesse. J'aime bien cette idée que quelque chose nous manque, on sait pas trop ce que c'est et on cherche ce qui nous manque. Et le désir évolue sans cesse. Je crois que l'inquiétude, c'est du désir pour moi.
Est-ce que le fait d'avoir eu du succès, de l'avoir vécu, ça fait chanter différemment ?
C'est une très bonne question. J'espère pas que ça fait chanter différemment. Enfin, vraiment, j'espère pas. De toute façon, je...
Avec plus ou moins d'assurance.
Ça, l'assurance... moi, j'ai l'impression que ce sera jamais mon truc. Enfin, c'est pas le succès qui donne l'assurance. Enfin, dans mon cas, en tout cas, je n'ai pas du tout cette sensation. Puis les gens qui sont dans l'intimité de tous ces tumultes... J'ai l'impression que ils sont costauds parce que c'est pas toujours facile de porter, d'accompagner ces destins-là. Enfin, je trouve que c'est faut être souple et tolérant et parce que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Toutes ces aventures-là, des tournées de 180 dates, des tournages de 2 mois. Voilà, il faut. C'est... Donc, oui, quand on revient chez soi, ben, on la joue low profile et puis on fait une tarte aux pommes, quoi. Enfin, je veux dire, on vit, quoi. Et puis moi, j'ai un enfant, donc je suis dans la vie, je suis au quotidien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Et puis, heureusement, enfin, je veux dire, c'est. Oh non, c'est vrai.
La semaine prochaine, Juliette Armanet joue et chante dans Partir un jour, premier film d'Amélie Bonin. Le titre du film vient du tube des To Be Free, sorti au milieu des années 90. Les paroles n'auraient l'air de rien, partir un jour, sans retour, effacer notre amour. Mais ça peut dire beaucoup de la puissance des amours de jeunesse, qui durent bien plus longtemps qu'on ne croyait. Partir un jour, le film, raconte notamment cette histoire-là. Et Juliette Armanet reprend cette chanson pour les génériques de fin du film.
Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a. qui s'abandonne. Amour que l'on pardonne pour un rêve qui nous étonne. Pour le coup retrouvé de la liberté, ouvrir les yeux sans se dire adieu.
Juliette Armanet, Rebecca Manzoni, c'est Totemic sur France Inter.
En regardant votre filmographie, parce que... bah si, quand même. Parce que là, il y a Partir un jour où, qui fait l'ouverture du Festival de Cannes, où vous avez le rôle principal, mais il y a des expériences avant, notamment où vous êtes dans le rôle de la chanteuse, dans Micmac de Jean-Pierre Jeunet, par exemple. Et je regardais les films. Il y a un film de Ralph Fiennes aussi, je ne sais pas comment dire.
Mais... personne ne sait. Alors, il y a des gens qui disent Fiennes, Fiennes, je ne sais pas.
Ralph le gars Fiennes. Du patient anglais, quoi.
Voilà. Et de Conclave.
Et de Conclave. Ralph.
Ralph, on va l'appeler comme ça.
Vous êtes la chanteuse à chaque fois.
Ouais.
Est-ce que ça, ce sont des expériences qui vous ont apporté un truc par rapport au cinéma ou pas trop ?
Bah, c'était confort, parce que du coup, il n'y avait pas le risque du dialogue.
Pourquoi c'est un risque, le dialogue ?
Bah oui. C'est le risque de sonner faux, c'est le risque de mal le dire, c'est le risque...
Et alors là, en interprétant le rôle principal de Partir un jour, c'était un risque de quelle nature ?
Il faut être là au moment où on a besoin qu'on soit là. Et bon, voilà, il faut apprendre aussi à se libérer du jugement, du regard, et s'abandonner. Alors ça, c'était le truc le plus dur.
Pourtant, s'abandonner, c'est ce que vous faites sur scène aussi.
Ouais, mais pas du tout pareil. Il n'y a pas de public quand on fait du cinéma.
C'est plus facile de s'abandonner quand il y a un public ?
Bah oui. Chacun s'abandonne. De l'autre côté, les gens sont là aussi pour s'abandonner. Enfin, je veux dire, c'est un pacte. Et là, non. Ça tourne, la lumière est bien, le costume attend, elle a le chignon de trop de trois quarts. Ah, elle a un truc entre les dents. Attends, non. Ok, ça tourne. Bah, vas-y, abandonne. Enfin, c'est pas facile de s'abandonner. Alors là, tu vas faire une fausse couche. Donc voilà, on y va, vous êtes prêts. Il nous reste 10 minutes pour la scène. Vas-y, fais une fausse couche. Ok. Bon. Et puis le temps passe, il faut assurer, il faut être bon, il faut s'arrêter au petit scotch qui est là, et puis il faut fermer le casier en même temps qu'on dit « Mais t'étais pas venue l'année dernière ?» Enfin, je sais pas, c'est plein de trucs. J'en parle vraiment très naïvement, mais parce qu'en fait, j'ai découvert ça, un truc d'une chorégraphie, de gestes, de mots, de lumière. Attends, elle a le cheveu, elle a un épi, il faut lui remettre, alors que t'étais persuadée d'avoir donné un truc de ouf. Et en fait, faut la refaire, là, t'étais mal coiffée. Ah, mais vous êtes sûre ? Bah oui, ça marche pas. Et puis la frite, elle était pas là, elle était posée là. Ah bon, bah on va la refaire pour la frite, alors. Mais du coup, je préférais celle d'avant. Mais oui, mais c'est pas raccord. Ok, bon, bah alors, faisons-la pour la frite, quoi. Donc, tout compte. C'est que la frite compte autant que l'émotion qui va passer dans la chanson. Dans la chanson, putain, le lapsus. Dans la scène.
Ils ont dit quoi, les médecins ?
Surtout pas de stress, il faut pas que je m'énerve. Et ça m'énerve.
Dans Partir un jour d'Amélie Bonin, Juliette Armanet est Cécile, une jeune femme qui a gagné Top Chef et qui ambitionne d'ouvrir un resto gastronomique à Paris. Suite à l'infarctus de son père, elle revient chez ses parents pour leur filer un coup de main. Ils tiennent un routier, un resto routier, depuis toujours. Extrait de Partir un jour avec Juliette Armanet et François Rollet, non, François Rollin, qui joue son père.
Bon bah reste pas les bras ballants, il faut refaire de la Macédoine pour le buffet d'entrée.
Ok, c'est où déjà les torchons ?
Dans le meuble derrière, sur la gauche en bas.
Alors, Macédoine.
Bah oui, on peut savoir ce qui te fait rire.
Non, il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine.
Ah mais oui, c'est vrai, j'oubliais.
Quoi ?
Attends que je la retrouve, celle-là. Voilà, la Macédoine est à la haute gastronomie. Ce que la tongue est à la haute couture. Cécile Béguin, Top Chef, épisode 7.
Parce que t'as noté tous les trucs que j'ai dit et que t'as pas digéré ?
Bah quoi ? T'aimes pas les hommages ?
Si, mais ça dépend lesquels.
Elle est en colère, en fait. Et ça, c'était le truc qui me faisait un peu peur. Parce que elle est souvent en colère au début, dans le film. Elle a une espèce de rage un peu sauvage, comme ça. Elle fonce, mais elle sait pas où elle va. Mais elle fonce. Du coup, elle se prend un mur. Et puis, c'est beau, un personnage de 40 ans comme ça, qui doit toutes ces questions-là, de les faire passer par ce prisme de cet âge, de la vie, où on est censé avoir tout résolu, tout compris.
Les gosses, le boulot,
les parents, les amours. Ben, en fait, non, rien n'est résolu. Elle ne sait pas si elle veut un enfant, elle ne sait plus de qui elle est amoureuse. Elle s'engueule avec son père comme si elle avait 15 ans. Et elle ne sait pas si elle préfère faire des entrecôtes frites ou des mousses de canard fumées sur le lit de je ne sais quoi, de parmesan cramé au caramel. Enfin, elle est dans un conflit intérieur où tout pose question. Elle est un peu garçonne, elle est...
Et ça imprime sa façon de marcher.
Ouais.
Elle marche comme une boxeuse un peu.
Ouais, carrément, ouais.
On a l'impression qu'elle va vers le ring en permanence, quoi.
Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que on se ressemble un peu.
C'est un film, mais c'est une comédie musicale. Et c'est une comédie musicale avec des tubes. On pense évidemment au modèle de... On connaît la chanson.
Bien sûr.
Même si l'histoire est différente, ça se passe dans un milieu complètement différent. Le répertoire aussi n'est pas le même. Mais il y a cette idée que les tubes, c'est la BO d'une vie, quoi. Ça vous fait ça, vous ?
Bien sûr. En fait, c'est ça qui me charme dans le film, c'est la croyance profonde dans le pouvoir de la musique populaire. Et dans le pouvoir de Dalida, dans le pouvoir de Camaro et d'Axel Red.
Dans le pouvoir de To Be Free.
Dans le pouvoir des To Be Free.
Partir un jour.
Exactement. Et en fait, cette manière de dire que parfois, on dit bien mieux en chanson ce qu'on pourrait dire soi-même, et que le plus beau des dialogues, bah, c'est de chanter Mourir sur scène, comme le fait François Rollin en épluchant ses patates dans sa cuisine de routier, et qu'en fait, bah, il n'est pas Dalida, mais Dalida, c'est un peu lui. Et du coup, on comprend tout de lui, de ses enjeux intimes, intérieurs, de sa passion pour ce routier, de son côté râleur et de sa scène à lui. Bah, sa scène à lui, c'est la cuisine, et c'est là qu'il veut crever. Et bah, tout est dit en 3 phrases. Et non seulement tout est dit, mais chacun peut s'y retrouver. Il y a quelque chose comme un fluide qui peut passer entre tous les spectateurs, de se dire... Ah bah tiens, moi j'étais où ? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi cette chanson ? Ça me rappelle qui ? Ça me rappelle quel parfum, quelle scène de ma vie ? Quel moment dans ma voiture ? Quel moment avec X ou Y personne ? C'est comme une potion magique où chacun va avoir un tilt intérieurement en se disant « Ah, moi ça me rappelle un truc ». Et c'est un lien invisible qu'on a tous et toutes les uns avec les autres, d'avoir une chanson en commun. C'est énorme, en fait.
Et ça, c'est la beauté de la musique populaire, justement, parce que vous dites le pouvoir de la musique populaire.
Bah, bien sûr. C'est que d'un seul coup, chanter Weekend à Rome de Monique Blanc dans sa camionnette, Ben en fait, ouais, c'est fait pour ça, Weekend à Rome, ça a été créé pour ça. C'est que presque on a oublié Dao, en fait. Dao, sa chanson l'a dépassée. Elle est partie ailleurs, elle est partie dans la camionnette de Fanfan qui veut aller vivre en Italie, et c'est son rêve à elle. Et c'est ça la puissance de la musique pop, c'est l'identification de chacune, de chacun. C'est fondateur à quel point on vit, on grandit, on change, on pleure, on rit, on traverse la vie en musique, et comment les musiques nous aident et nous accompagnent pour tout vivre.
Dans le cadre de notre politique, les tubes sont la BO de nos vies. Vous en avez choisi un. C'est une chanson de R et de Thomas Mars, l'un des morceaux de la bande originale de Virgin Suicide, le film de Sofia Coppola. Alors...
Ça me rappelle tout. Récemment, je suis allée voir R en concert. Je regardais les gens dans la salle et vraiment d'un seul coup, toutes les mains se rapprochent, les corps se rapprochent. Tout le monde a envie de s'embrasser. Quelque chose de très sensuel qui se met dans la salle. Et je sais pas, tout est parfait. Les accords de mélotron, la tension, les paroles.
Ça dit quoi, les paroles ?
Ça parle de l'amour comme un jeu, un jeu un peu dangereux. C'est à la fois hyper romantique et un peu terre à terre, étrange. Time's no matter, I'm on fire, on the
playground. Mais ça correspond à quel moment de votre vie alors ?
C'est l'adolescence, vraiment. La sensualité qui s'éveille, c'est le. L'impression d'avoir d'être une femme. Je sais pas, il y a quelque chose qui se
oula
qui se non mais si c'est vrai, quelque chose qui se je suis plus une petite fille quoi.
Ça veut dire quoi être une femme? Ça veut dire quoi se sentir femme, pour reprendre les paroles d'une chanson populaire?
Non mais ça, enfin en tout cas j'ai un corps quoi. Je n'ai jamais été très femme, très féminine particulièrement, mais en tout cas, j'ai mon corps à moi, quoi. J'en ferais bien ce que j'en voudrais. Nous, on commence un peu à couper le cordon avec juste la famille et à se dire qu'on a une vie à soi, quoi, à explorer.
Vous aviez hâte ?
Non. Je crois pas. Non, j'étais bien, moi. Dans ma famille, j'étais contente, j'étais hyper heureuse, j'ai eu vachement de chance. J'étais super heureuse chez moi. Et j'ai pas eu hâte, et puis j'ai coupé d'un seul coup, je suis partie à 18 ans. Mais je me sentais bien là où j'étais. Par contre, j'avais besoin d'au moment où il y a eu cette coupure, d'être indépendante financièrement. Enfin, je veux dire, d'être indépendante, de ne dépendre de personne. Ça, pour moi, c'était vraiment important.
Donc, il n'y avait pas de hâte, mais c'était un peu radical, quoi.
Bah, ouais. Mieux vaut ça, je crois. Que de partir avec des Tupperware, avec un petit truc dedans, un petit goûter, un petit machin. Au moins là, clac.
Je suis la pire. Elle m'aime bien corrompue, donc on fera la paire.
s'appelle Théodora et elle publiera un duo bientôt avec Juliette Armanet. Une échappée avec Juliette Armanet, c'est Totémique jusqu'à la prochaine heure.
On passe à votre carte blanche ?
Ma carte blanche, absolument. Carte blanche dans mes désirs. Tout le monde a dû faire cette blague, non ?
Non, vous êtes la seule.
Elle est nulle, ouais. C'est quoi ma carte blanche ?
C'est soit un texte que vous avez choisi, ou... Vous n'en avez pas choisi ?
Non.
Ah, ok.
Merde.
C'est pas grave.
Mais après, on peut trouver un texte là, hein. Je sais pas. Attends, bah, c'est bon, je regarde ce que j'ai. Il y a tout un panel, quand même, qui est pas mal. Il y a « Il neige sur le pianiste » de Claudie Hunsinger, qui est vraiment une autrice que je vénère. Avec des photos à l'intérieur, voilà. Il y a des trucs soulignés.
Ah ouais, vous soulignez, vous ?
Toujours, je lis avec un stylo. Parce que je
vous recopiez ?
Je repère et je recopie, ouais. Et puis, je sais pas, j'aime bien... Quand je retrouve un livre, retrouver les trucs soulignés parce que je me dis « Ah tiens, ça m'avait parlé à cette époque-là. Qu'est-ce que ça raconte de moment où je l'ai lu ? Pourquoi ça, ça a résonné plus que ça ? Ça raconte quelque chose, c'est un peu une cartographie de qui on est, du moment où on l'a lu quelque chose. » Tu vois, là, il y a écrit « Comme il est beau, personne encore ne l'a tué. » Bon, pourquoi ça m'a parlé ? C'est chelou. Il y a écrit, là j'ai souligné, sommes-nous sur le point de naître ou déjà morts ? Bon, tu vois.
Ça, c'est même entouré, ça.
C'est même entouré. Voilà, alors ça, j'aimais bien. Tu as grossi, c'est effrayant, tu as triplé. Ce qui l'aurait fait éclater de son rire à lui, comment le faire sonner, ce rire de gamin qui vient d'attraper une truite à la main. Alors ça, je sais pourquoi je l'ai souligné. Parce que y a quelqu'un dans mon entourage qui a un rire exactement comme ça, qui explose de rire comme s'il venait d'attraper une truite. C'est hyper bien dit. Enfin, évidemment, j'aurais jamais trouvé cette formule.
Et on peut pas le dire mieux.
Donc, elle a trouvé. C'est exactement. Je me suis dit, ah, mais c'est dingue, c'est ça que je cherche, parce que chaque fois il rit, il explose de rire, et la formule est parfaite. Ce rire de gamin qui vient d'attraper une truite à la main.
Alors, j'élève mon enfant du mieux que je peux.
Voilà, il y a un livre.
Et c'est déjà bien.
Isabelle Payot, je sais pas qui c'est, mais psychologue thérapeute, voilà, dirigeante de la Fabrique à Bonheur. J'élève mon enfant du mieux que je peux, et c'est déjà bien. Bon, bah, parfois il en faut aussi des livres comme ça, un peu pour se donner du courage. Bon, j'ai pas souligné grand chose. Bon, voilà.
Les lectures, ça nourrit l'écriture des paroles ?
Ah bah oui. Tout nourrit. Enfin, quand j'en ai, moi, quand je fais un disque, je regarde 3 films par semaine. Je lis. Enfin, j'ai l'impression que j'ai un besoin très intense de me nourrir, de chercher des idées, de trouver des formules. Parfois, d'ailleurs, c'est grâce à une formule qu'on ouvre la boîte de Pandore d'un seul coup. Une chanson peut naître juste pour une association de mots, quoi. Et puis, c'est trop bien de travailler avec son inconscient aussi. Enfin, c'est-à-dire d'aller chercher la sincérité dans un endroit un peu pas trop maîtrisé de soi. C'est-à-dire, je vais souligner une phrase, je la recopie, et puis je tire ce fil-là, parce que juste la formule me plaît. Bah, c'était, par exemple, le dernier jour du disco, c'est né comme ça. Et du coup, je tire un fil, c'est un fil complètement inconscient. Du coup, bah, de quoi ça parle, je sais pas, mais ça parle de moi de manière un peu moins maîtrisée que si j'essayais de raconter ma vie un peu de manière plus frontale.
La dernière séquence de cette émission, c'est une séance photo.
Ah oui.
Avec un Polaroid.
Ouais.
Donc, c'est vraiment une démarche amateur. Vous êtes d'accord ?
Oui.
Ok.
Bien sûr.
On l'a fait là ?
Ouais.
Alors, il y a la lampe, les guitares, les claviers derrière.
Ce bruit, quand même, on adore. Drôle de tête.
Ah bon, pourquoi ?
Ah ouais, je sais pas. C'est cool, je vais la garder. Je peux la garder ?
Alors, l'idée, c'est que ce soit moi qui la garde, mais je peux en... parce que j'aimerais la mettre sur les réseaux avec votre accord.
Ah oui, bien sûr. Eh bah, bien sûr, avec plaisir.
Mais je peux en faire une.
Non, 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 non.
c'est celle-là qui est bien. Mais je trouve ça chouette. Parce qu'en fait, personne n'est jamais venu vraiment dans cet endroit de studio. C'est un peu... Je sais pas, c'est assez joli de faire ça aujourd'hui, comme ça.
Vous avez cité le dernier jour du disco. Pour vous, c'était le dernier jour de quoi?
C'était surtout le début. Mais tous les débuts impliquent une fin. Je sais pas, de toute façon, je trouvais ça bizarre de revenir avec une chanson qui commençait par « C'est la fin » après 4 ans de silence. Mais en même temps, j'avais envie de ça, de marquer une rupture. Et puis, puis moi, j'aime pas les fins. En général, c'est un truc qui me fait peur. Je suis pas une meuf de fin.
Ça veut dire quoi, ça?
Bah, je sais pas dire au revoir, je sais pas m'arrêter, je sais pas... je sais pas... La fin, c'est... Je suis pas du tout faite pour ça, moi.
Donc, le chanter au début, ça, c'est fait.
Ça, c'est fait. Voilà, exactement.
Voilà. Merci beaucoup,
merci,
Juliette Armanet.
Merci beaucoup.
Partir un jour, d'Amélie Bonin, avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon, Dominique Blanc et François Rollin. Partir un jour, donc, ouvre le Festival de Cannes mardi prochain et le film est en salle le lendemain. Koy Nguyen réalise Totémique et c'était avec Benjamin Wagon ce matin. Perrine Malinge programme les invités de l'émission. Ilinka Negulesco la prépare et JB Audibert choisit nos disques. La semaine prochaine, je vous emmène au café avec l'écrivain Philippe Claudel.